Les traces de ce que l'on a été dans l'enfance, de la manière dont on a été socialisé, perdurent même quand les conditions dans lesquelles on vit à l'âge adulte ont changé, même quand on a désiré s'éloigner de ce passé, et, par conséquent, le retour dans le milieu d'où on vient, et dont on est sorti, dans tous les sens du terme, est toujours un retour sur soi, et un retour à soi, des retrouvailles avec un soi-même autant conservé que nié. Affleure alors à la conscience, en de telles circonstances, ce dont on aurait aimé se croire libéré, mais dont on n'ignore pas que cela structure notre personnalité, à savoir le malaise produit par l'appartenance à deux mondes différents, séparés l'un de l'autre par tant de distances qu'ils paraissent inconciliables, mais qui coexistent néanmoins dans tout ce que l'on est. Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue et vous propose de tendre l'oreille pour écouter Transfuge. Est-ce que vous vous souvenez des petites fiches que vous deviez remplir pour chaque professeur, de chaque discipline, chaque année, où il fallait parler de vous, de vos passions, du métier que vous vouliez faire, mais surtout, surtout, du métier de vos parents? Encore aujourd'hui, dans les études supérieures, c'est une question presque indispensable lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes. À l'ENS, il s'agit presque toujours des mêmes réponses. Parents profs, parents chercheurs, parents ingénieurs, parents journalistes, parents médecins. Autrement dit, parents cadres, si on se fie à la catégorie socio-professionnelle de l'INSEE. Et si vos parents ne font pas partie de la longue liste de métiers de cadres et professions intellectuelles supérieures, on vous regarde avec curiosité, étonnement et, dans le pire des cas, un peu de mépris. La sociologie vous appelle les transfuges de classe. Vous quittez un milieu pour en trouver un autre, nouveau, aux codes sociaux différents, inédits. L'ENS est-elle pour vous synonyme de doute et de peur, ou de découverte et de refuge? Comment se sentent les enfants d'ouvriers, d'employés, d'agriculteurs ou encore de commerçants? Qui sont-ils? Qui sont les transfuges? Aujourd'hui, c'est Guillaume qui va répondre à mes questions. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter en nous donnant ton statut au sein de l'ENS, donc si tu es élève, étudiant, auditeur, ton niveau, donc L3, M1, etc., et ta discipline, s'il te plaît?
Alors, je suis étudiant. Actuellement, je suis en M2 FEADEP. Je prépare l'agrégation de lettres modernes.
Pour essayer de comprendre qui tu es socialement, j'ai quelques questions qui ont l'air anodines, mais que j'aime bien poser. Où est-ce que tu as grandi?
Alors, j'ai grandi dans la commune d'Arnage, qui se situe au sud du Mans, dans le département de la Sarthe.
Est-ce que tu es déjà allé à l'étranger, et si oui, combien de fois?
Alors, j'y suis allé quelques fois, souvent dans le cadre soit de voyages scolaires, ou aussi de voyages organisés dans le cadre d'un centre social. Deux fois au Maroc, une fois en Autriche, deux ou trois fois à Londres, hein, et sinon peut-être, et une fois en Espagne.
Est-ce que tu as déjà fait du ski?
Non.
T'avais quel âge quand tu allais au musée pour la première fois?
Alors je ne m'en souviens plus, je botte en touche, mais c'est peut-être vers 8-10 ans, peut-être.
Est-ce que tu as déjà sauté une classe, et si oui, combien?
Alors j'ai sauté une classe en sens inverse, c'est-à-dire que j'ai redoublé mon CE1.
Et c'était quoi ton livre préféré quand tu étais enfant?
Alors enfant, c'est-à-dire j'imagine quand on a 7, 8, 10 ans. C'est-à-dire qu'à cette période-là, je n'aimais pas lire. Donc c'était plutôt les bandes dessinées. Donc voilà, on peut citer Tintin ou Gaston Lagaffe, oui.
Bon, et maintenant que les questions faciles sont passées, autant continuer avec la question qui fâche. Qu'est-ce qu'ils font comme métier, tes parents?
Alors ma mère actuellement est en reconversion, c'est-à-dire qu'elle suit une formation pour devenir, pour exercer un métier dans la couture. Elle était avant serveuse. Elle était aussi dans les métiers de la vente. Et quant à mon père, c'est un ancien militaire. Il a exercé, il était au 2e RIMA d'infanterie de marine pendant 18 ans. Et actuellement, il est agent de maîtrise. C'est un métier dans le secteur de la manutention où, En gros, pour résumer, il gère une équipe qui a pour tâche de réceptionner de la marchandise, de la traiter et de la charger dans d'autres camions qui partent ici ou là.
Et est-ce que tu sais à quoi ça correspond comme CSP, donc comme catégorie socio-professionnelle ?
Pas du tout.
Et maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, je voulais tout simplement te demander comment tu vas là maintenant à l'ENS ?
Alors comme tout bon agrégatif, je dirais que c'est compliqué. Alors je me sens plutôt globalement bien actuellement, relativement fatigué. Après, un concours blanc assez intense, une préparation elle-même aussi intense, mais ça va.
Et donc tu dirais que tu te sens bien dans l'environnement ENS ?
C'est-à-dire qu'en tant qu'agrégatif, la formation se passe plutôt bien, mais là où peut se poser, un problème en termes de tension avec, le cadre... Oui, là, il y a des hauts et des bas, dans le sens où parfois on se sent en décalage avec certaines personnes qui suivent la même formation, voire où peut intervenir des remarques qui font que c'est plus dur à vivre, que les autres. Remarque en termes, de violence symbolique, pour dire le mot, car je suis un peu dans une situation particulière, n'étant pas justement rémunéré, ayant exercé un travail le week-end pendant les mois de septembre et octobre. Il me fallait gérer à la fois, un travail en parallèle pour subsister et en même temps mener cette préparation. Et parfois, un décalage manifeste se présente, oui.
Et je voulais revenir sur ce que tu as fait avant d'arriver à l'ENS. Donc, est-ce que tu as fait une prépa, une fac, en quelle discipline, en quelle prépa, où ? Et d'une part, à quel point l'ENS, c'était ton but absolu ou pas ? Et à quel point tu pensais être pris sur une échelle de 1 à 10 ?
J'étais en préparation, en classe prépa littéraire au lycée Montesquieu au Mans. J'avais absolument pas l'intention d'intégrer cette prépa à la base. J'étais dans un lycée, au lycée André Malraux d'Allonne, qui se situe dans la périphérie du Mans, au sud. Et c'est mon professeur de philosophie qui, à un moment donné, m'a dit peut-être que les classes prépa littéraires pourraient être une bonne option pour toi. Et l'idée était davantage de préparer Sciences Po et d'intégrer Sciences Po Rennes à ce moment-là. Ce qui me semblait déjà très ambitieux. Donc j'ai intégré cette prépa littéraire. Je ne connaissais pas l'ENS de Lyon. C'est là que j'ai appris l'existence de cette école. Et c'était littéralement le Graal à ce moment-là. Il y avait un processus d'idéalisation qui était très fort. Le Graal dans le sens où il était inatteignable et c'était totalement intériorisé que nous étions en prépa littéraire, que notre prépa littéraire avait, 2 ou 3 sous-admissions tous les ans, ce qui était très bien. Enfin, d'un point de vue, on était très fiers pour nos sous-as. Et sur une échelle de 1 à 10, je dirais 2 quand même, on part de loin et... Mais j'avais quand même, par exemple, quand j'étais lors de ma première cagne, puisque j'ai cubé, j'avais l'espoir d'intégrer. Et vraiment, j'étais très combatif. Ça m'a même psychologiquement atteint, de vouloir à tel point intégrer cette école qui me paraissait tellement loin. Et finalement, à la fin de cette première cagne, j'étais sous-admissible. Je me suis retourné sur cette année, je me suis rendu compte que je l'avais globalement mal vécu, mais que globalement j'aimais énormément ma prépa, mes enseignants, mes collègues, le cadre, j'étais chez mes parents à ce moment-là, et je me suis dit bon, je vais m'offrir une deuxième année en cagne, et l'idée n'était absolument pas en cubant de travailler un maximum pour intégrer l'ENS de Lyon. L'idée était au contraire de profiter de ce cadre-là un maximum et d'être globalement heureux dans ce parcours-là, qui me permettrait ensuite d'aller à Paris-Nanterre, à la Sorbonne ou ailleurs. Mais j'avais intériorisé le fait que je n'allais pas intégrer cette école-là, que j'ai intégré finalement sur dossier. Bon, tant mieux. Mais c'était pas prévu. Hein.
L'ENS est considéré comme une réussite sociale et intellectuelle pour beaucoup, mais comme toute victoire ou tout succès, il y a souvent beaucoup d'échecs de tout type avant. C'est quoi l'échec, donc qu'il soit scolaire ou pas du tout, qui t'a le plus marqué et qui t'a le plus permis d'avancer et ou de rebondir?
Alors il y a plusieurs échecs. Le premier que j'ai évoqué, c'était mon redoublement en CE1, qui est un cas assez rare, les redoublements ici, en tout cas j'en entends pas beaucoup parler. Et j'avais redoublé le CE1 parce que j'étais très mauvais au CP. Il y avait vraiment un décalage et ils ont décidé de me faire passer en CE1 justement. Ce qui a fait que j'étais en décalage de 2 années sur mes petits camarades. Du coup, a été décidé que je redoublais. Tout, on va dire, mon parcours dans l'école primaire, c'était que ça. C'était vraiment dépasser la difficulté. Le mot compte parce que il va de pair avec une désignation. C'est l'élève à difficulté, vous savez. Et au fond, dans cette appellation, ce qui est terrible, c'est que l'élève est mis en relation avec la difficulté qu'il a à accomplir, au fond, à atteindre certaines compétences dans l'établissement. Et finalement, dans cette désignation, dans sa répétition, dans le fait qu'elle est accolée à l'élève, il devient la difficulté en lui-même, dans ce système, dont il témoigne d'un dysfonctionnement. Et lors de mon passage au collège, à ce moment-là, je ne maîtrisais pas du tout l'écriture, j'avais des problèmes d'articulation, de lecture, c'était assez catastrophique. Et s'est posé la question, est-ce que j'allais aller dans un collège général ou dans un établissement, disons, plus spécialisé et mon père et ma mère ont bataillé contre l'avis de l'établissement de l'école primaire pour que j'aille en collège général. Et c'est au collège qu'il y a eu un déclic, disons.
Du coup, quand on te parle d'échec, c'est le premier qui te vient en tête ?
L'échec scolaire ? Oui, parce que c'est quand même un énorme échec. Hein. Sur un plan psychologique, je pense avant tout à cela. Enfin, j'accole quand même le terme d'échec à la difficulté que j'ai eue au redoublement, etc., parce que c'est ce terme-là qui a été apposé aussi à ce moment-là, bien que ça ne dépendait pas que de moi.
Et une fois à l'ENS, qu'est-ce qui t'a fait le plus ressentir que tu venais d'un milieu social différent ? Est-ce que tu as des anecdotes ou des choses à raconter ?
Peut-être la première chose qui m'a fait ressentir cela, c'était le contraste entre mes relations, on va dire, en prépa littéraire, donc au Mans, et mes relations à l'ENS de Lyon, où il y avait, me semble-t-il, une forme de légèreté. On ne prenait pas très au sérieux au Mans le concours de l'ENS, à vrai dire, puisqu'on intégrait peu. Alors que, et même, en particulier dans l'usage des références culturelles, etc., où il y a une vraie fracture qui se pose. Le fait que, quand on est originaire d'une ville comme Le Mans, de la province, entre guillemets, on nous le fait ressentir d'une certaine façon. Après, la différence, elle se manifeste aussi en termes matériels. C'est dans le rapport à l'argent, en particulier. Car étant étudiant, je ne dispose pas d'une rémunération, ce qui m'a forcé à faire des prêts auprès d'une banque, ainsi à travailler en parallèle. Et parfois, le fait d'avoir cette situation-là crée un contraste qui fait qu'on ne comprend pas tellement les agissements des normaliens fonctionnaires, normaliennes. Ceux qui ont une rémunération ne vont pas forcément comprendre certains choix de notre part. Et ça peut nourrir quand même des situations, et j'y reviens, de violence symbolique en termes de remarques. Quand au self, au restaurant universitaire, vous allez prendre un peu plus de sachets de sel et de poivre pour vous faire des réserves. Et on va, l'un de vos camarades que vous considérez comme un ami, que vous appréciez, va surréagir et dire « c'est quand même, tu n'as pas à te comporter ainsi, quand même ». et adopter une posture paternaliste, voire moraliste, en disant « mais c'est quand même pas bon pour la santé ». Ce qui est assez choquant et violent, du fait de la posture de cette personne qui est rémunérée, et de la mienne, qui crée un décalage certain, qui n'est pas sans effet par la suite. Je suis assez sensible à ce genre de remarques, ce qui fait que, et obsessionnel, du coup, je vais y penser pendant toute une journée, m'adresser à l'autre pour lui demander, lui signaler hein, cette violence. Mais quand ce n'est pas des excuses qu'on vous adresse, mais seulement un geste de rejet et d'ignorance par la suite, là, vous constatez à quel point le mépris de classe est présent dans cette école. Cette école qui est quand même, d'une certaine manière, et c'est un peu excessif, mais je le dirais quand même, une sorte de temple de la violence symbolique.
Je me demandais, pour toi, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est et est-ce que ça te parle ?
Ça me parle énormément. Et à l'ENS de Lyon, c'est un peu l'idée du malentendu. On m'a pris sur dossier pour je ne sais quelle raison, et je suis là malgré tout, et on va essayer de faire le job. Et ce sentiment-là a été accentué aussi par des violences hein, qu'on m'a adressées sous le ton un peu de la blague. Je me souviens, je ne vais pas le nommer, mais mon parrain en première année, qui m'avait, j'étais en vacances, il m'avait demandé si j'étais avec mes grands-parents. Je lui ai répondu oui. Il m'avait dit « Ah, je parie que tes grands-parents sont professeurs de lettres modernes, de lettres classiques ». Je lui ai répondu que ma grand-mère était femme au foyer et que mon grand-père était ancien militaire de carrière. Là, il m'a répondu « Ah, d'accord, donc tu es à l'ENS pour équilibrer les statistiques de l'école. » Ce qui est d'une violence assez folle. On ne sait pas comment réagir, en fait, à ce type de remarque. En fait, quand on le vit, on répond par l'humour pour désamorcer la situation et couper court.
Et du coup, justement, par rapport à cette question du syndrome de l'imposteur, comment tu essaies de lutter contre ?
Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand même, je commencerai par les autres et par ceux qui m'entourent. Tout d'abord, mes parents qui me soutiennent énormément et qui m'aident à financer ces études. Ils ne seraient pas là, je serais, je pense, de retour au Mans. Et d'une certaine façon, je serais beaucoup plus heureux au Mans à préparer le CAPES qui a préparé l'agrégation ici, ça j'en suis certain. Ce qui m'aide aussi, c'est mon petit ami qui fait ses études à Angers et qui me soutient dans cette dure épreuve. Et il y a quelques amis comme ça, certains qui préparent l'agrégation, je pense, je vais leur citer leurs noms, Yael, Pauline, mais aussi une amie que j'affectionne énormément, Nathanaël, que je vais voir tous les dimanches, par exemple. Et ça me fait vraiment un moment pour respirer. Tout à fait. Mais je dirais pas que c'est suffisant non plus.
Là, à l'instant, tu parlais de tes parents qui soutiennent tes études à l'ENS de Lyon. Je me demandais comment ta famille vit le fait que tu sois à l'ENS et est-ce que tes rapports avec elles ont changé, ont évolué ?
Ils ont globalement changé, où il y avait parfois une forme de conflictualité qui pouvait se manifester avant et que mes relations avec eux sont très apaisées. Je les aime énormément. Et ils sont là pour m'aider. Et quand ils ont réalisé que j'avais des difficultés financières, ils étaient tout de suite prêts à m'aider, hein, à m'apporter un soutien matériel, financier. Ils ont fait le déplacement ici pour mon déménagement.
Enfin, est-ce que tu pourrais parler d'un modèle, d'une personne qui a été là pour toi ou qui t'inspire et qui te donne envie de continuer à croire en tes objectifs et peut-être d'être toi-même un modèle pour d'autres un jour ?
C'est-à-dire que mes modèles sont plutôt des contre-modèles. Moi, c'était davantage la figure de Jean d'Ormesson qui est... pour laquelle j'avais pas mal d'affection étant au lycée. Avec au fil du temps, une forme de distance s'est établie. Distance, parce qu'au fond, il est diamétralement opposé à mon parcours. c'est un aristocrate qui, pour le coup, est beaucoup plus allé à l'étranger que moi. Son père était ambassadeur. Il parlait plusieurs langues. Mais c'était malgré tout une forme de modèle à ce moment-là, mais presque affectif, pas très rationnel. Et avec le temps, bon, une distance est indéniablement créée politiquement. Et au fond, il constitue une forme de contre-modèle dans le sens où il est exactement ce que je ne veux pas atteindre, ce que je ne veux pas être, me semble-t-il, politiquement, mais aussi dans mon rapport, par exemple, à mon domaine d'études, qui est les lettres modernes, la littérature. Une fois qu'on a évoqué ce modèle contre modèle un peu illusoire, qui est une figure assez éloignée d'un écrivain, etc., en fait, les vrais modèles desquels je m'inspire, et qui sont cette fois-ci pas de l'ordre d'une illusion, c'est les gens que je côtoie. Enfin, il n'y a pas d'autre modèle plus authentique et plus inspirant que nos amis, notre famille, et ceux qui donnent un sens à tout ça.
Merci beaucoup, Guillaume, pour avoir répondu à mes questions. Vous venez d'écouter Transfuge, une émission produite par Marie Brunner et diffusée sur Transistor.